Bonsoir. 22 personnes tuées en l'espace de 6 jours en territoire de Bénin, au nord Kivu. C'est un crime de trop et ça doit cesser. C'est ce que dénonce le député national Jean-Paul Paluku. Il appelle le chef de l'État à concrétiser sa promesse de campagne faite aux populations de ce coin du pays en mettant fin à leur souffrance. De son côté, le Parlement d'enfants relève qu'une centaine d'enfants ont été tués ou enlevés ces 5 dernières années au cours des différentes attaques de l'EDF dans le territoire de Béni. Cette structure dénonce ce qu'elle qualifie de crime grave contre l'humanité. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 24 juillet 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Karline Zanzou Kassivita, gouverneur de la province de Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Kelly Coutin, bonsoir les auditeurs de la radio Capi.
Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile de Nord Kivu. Monsieur Matesso, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs.
Et le professeur Mopes Kibiswa, professeur en analyse et résolution des conflits, ainsi qu'en études des paix et justice. Professeur Kibiswa, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir auditeurs de Radio Capi.
Merci de nous suivre à Béni au Nord Kivu sur la 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, 12 civils tués dans la nuit de lundi à mardi, dont deux nouvelles attaques attribuées aux EDF dans le territoire de Béni. La société civile locale qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la région parle de 22 civils tués depuis 6 jours au cours des différentes attaques dans le territoire de Béni. Martial Papi Moukeba pour les détails.
La première attaque est intervenue aux environs de 20h heure locale. D'après des sources locales, un groupe de l'ADF a fait incursion à Mabasele, un quartier situé dans la partie ouest de la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Béni. Les assaillants ont d'abord contourné les positions des FRDC, disent ces sources, avant de s'attaquer aux populations civiles. La société civile du territoire de Béni donne un bilan de 9 personnes tuées, notamment 4 femmes, 4 hommes et un bébé d'un mois, ainsi que 3 autres blessés par balle. Aux environs de 20h30, un autre groupe va faire incursion à Kasana, un village de la localité de Ringeti, voisine de Wicha. 3 civils seront tués et 3 autres blessés par balle, selon la société civile. Ces informations sont confirmées par les sources militaires qui précisent que les FRDC sont à la poursuite des assaillants. La société civile du territoire de Béni, qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la région, parle des 22 civils tués depuis maintenant 6 jours au cours des attaques ADF. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Capi.
Merci Martial Moukeba. Entre-temps, des centaines d'enfants ont été tués ou enlevés ces 5 dernières années au cours des différentes attaques de l'EDF dans les territoires de Béni, dans la province du Nord Kivu. Le Parlement d'enfants de la région qui donne ce chiffre dénonce ce qu'il qualifie des crimes graves contre l'humanité, tout en précisant que des milliers d'autres enfants sont devenus orphelins suite au massacre des civils dans le territoire de Béni. Son président Pélégi Kavutiwaki appelle le gouvernement congolais à mettre tout en œuvre pour faire respecter les droits des enfants dans cette région. On l'écoute au micro, encore une fois, de Martial Moukeba.
Depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à nos jours, a enregistré 97 filles et 114 garçons, enfants tués par ces rebelles ADF Nalu. Et nous avons encore enregistré 789 enfants kidnappés, dont nous avons 416 filles et 373 garçons kidnappés et 3800 enfants orphelins victimes de ce massacre. Alors nous demandons au gouvernement et de la RDC de se référer à la loi portant protection de l'enfant qui nous garantit le droit à la paix, à la sécurité et à l'éducation Le gouvernement fait tous leurs moyens possibles de libérer les enfants portés disparus.
Pierre-Lin Nzanzou-Kassivita, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de l'insécurité à Beni?
Merci beaucoup, Kalikouté. Avant de pouvoir donner mon analyse sur les faits qui se passent dans la province du Nord Kivu, spécialement dans les territoires de Beni, je voudrais d'abord adresser ma compassion pour toutes les familles des victimes de ces tueries barbares de Zadief Nalou, mais aussi des autres victimes de la barbarie humaine, telles qu'en ville de Goma, à territoire de Rutshuru, à Rugari et dans les Masisi. En fait, comme vous le savez, nous sommes un pays post-conflit, mais aussi nous avons l'histoire des Zadief qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis 1986. Le territoire de Beni était déjà endeuillé vers les années 90, quand on a commencé à attaquer ce rebelle. Et nous avons perdu beaucoup de personnes dans les secteurs de Rwenzori. Si vous parlez aujourd'hui avec les gens qui sont à Beni, spécialement dans la commune de Rwenzori, ce sont des rescapés, des déplacés des guerres, de cette guerre de Adief. Aujourd'hui, qu'est-ce qui expliquerait la recrudescence de ces ADF pour tuer la population? En fait, il faut savoir que nous sommes toujours en guerre. Depuis 2014, on a intensifié des offensives contre les ADF. Et toutes les fois qu'ils sont malmenés par les forces armées de la République, ils se rabattent à la population pour essayer d'exprimer leur ras-le-bol, pour essayer d'amener la population à couper une très bonne collaboration avec les forces de la République. Et cela, ça se voit partout dans leur stratégie de terroriser la population, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne s'accordent pas sur la terminologie terroriste, mais tout ce que ces gens font, c'est du terrorisme, c'est terroriser la population pour avoir une opinion, parce qu'en fait, quand on est en détresse, les gens ont eu même tendance à dire pourquoi vous les attaquez, parce qu'ils vont nous tuer. Ça a déjà été dit à un moment donné par la population en détresse. Ce que nous retenons, la volonté du chef de l'État est bien exprimée pour ramener la paix et la sécurité dans la province Nord Kivu. C'est ce qui a expliqué même aujourd'hui l'audience hier que le chef de l'État nous a accordé, parce qu'on a discuté de la question de la sécurité en province Nord Kivu, mais aussi de l'Ebola.
Alors, comment expliquer que ces ADF puissent terroriser la population alors qu'on a l'armée et la police présentes sur place?
En fait, il faut connaître la région. Et les ADF opèrent dans ce que nous appelons le triangle de la mort. Une grande partie, c'est sur le parc national de Virunga, mais aussi pratiquement la forêt équatoriale. Autour de cette forêt équatoriale, effectivement, il y a des grands villages, des grandes agglomérations comme Owicha, la ville de Beni, et aussi Eringeti et d'autres villages. Et la méthodologie utilisée depuis lors par les ADF, c'est le terrorisme, c'est la guérilla, ils viennent, ils tuent, ils rentrent, souvent nuitamment. Et cela pose quand même un problème.
Est-ce qu'il n'y a pas une patrouille, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires dans ces coins?
Non, il faut dire qu'il y a la police, il y a l'armée autour des grandes agglomérations, même en profondeur. Moi, je me souviens, en 2015, j'étais ministre provincial au gouvernement, dans le gouvernement de l'honorable Julien. Nous avions même fait une visite aux victimes dans la profondeur du territoire de Beni, à 25 km de la ville de Beni. Donc, il y a des villages, parce que ce sont des champs. Ce sont des champs, des gens et le parc. Et des fois, quand on est au champ, ils vous arrivent, ils vous tuent. Et ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'avoir un militaire à chaque centimètre du territoire de Beni. Mais l'armée, jusque-là, a toujours contenu les assauts autour des grandes agglomérations. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il y a absence de la force publique. Mais ce qui est vrai, nous sommes en guerre depuis plus de 20 ans contre les Indiens.
Alors, il y a eu plusieurs opérations militaires justement pour contrer ces ADF, pour les éradiquer. Apparemment, toutes ces opérations ont été un échec. Est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Ça a été un échec?
Je ne peux pas affirmer que ça a été un échec. Mais pour autant que nous avons encore le droit de ramener la sécurité, je crois qu'il faut le faire. Parce qu'il est de notre responsabilité comme État de ramener la paix et la sécurité. Pour autant que la population sera toujours en détresse, sera meurtrie, effectivement, la population aura l'impression que quelque chose n'est pas en train d'être fait.
Justement, la population se sent abandonnée.
Ce qui est vrai, il y a eu beaucoup de sacrifices. C'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire de tous les forces armées, les éléments de forces armées qui sont tombés à Beni pour défendre la patrie. Et nous devons les encourager et nous devons effectivement, comme pouvoir public, comme population de Beni, du Nord Kivu, soutenir cette armée pour qu'effectivement, à un moment donné, il faut que dans un délai raisonnable, que ces tueries s'arrêtent. Nous avons besoin de faire autre chose qui est de continuer à plaider effectivement le mort.
Merci. Monsieur le gouverneur Edgar Matesso, vous êtes premier président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Comment vous expliquez cette recrudescence de l'insécurité à Beni?
Merci, madame. Moi-même, comme le gouverneur, je présente aussi mes soldats aux familles des victimes et mes combattants aux rescapés. Et pour revenir à la question, je crois que la question de la guerre ou de l'insécurité au Nord Kivu et en Ituri, spécialement à Beni, requiert une question de vérité. Et à notre niveau, nous nous posons quatre questions qui jusqu'à présent semblent ne pas trouver de réponse. La première question, c'est celle de l'identité de l'ennemi. Et si vous voyez de près, il plane un flou autour de l'identité de l'ennemi. Certains parlent d'islamistes, des gens qui veulent créer un État islamiste, et ça c'est déjà le point de vue militaire. Il y en a qui parlent du terrorisme, le gouverneur vient d'en parler également, les terroristes qui sont localisables dans des triangles bien définis. On parle parfois des complicités des Congolais, des fils du pays, et que ce soit du côté militaire, tant du côté militaire que du côté des civils, il y a aussi un doute qui plane autour de la responsabilité des pays voisins. On parle parfois des ennemis qui viennent des pays voisins, mais il n'y a pas de mécanisme de travail, de coopération avec les États voisins, si bien qu'on arrive même à parler de la complicité de certains pays voisins qui se trouvent à l'est. La deuxième question, c'est la question de la nature même de cette guerre. Le gouverneur venait de parler de 1986, depuis 1986 que les ADF sont dans la région, mais ils ont commencé à être très agressifs depuis une dizaine d'années, lorsqu'ils ont commencé d'abord à enlever des civils. Et puis, en octobre 2014, ils ont commencé à massacrer systématiquement. Et on se demande s'il s'agit d'une guerre d'occupation. S'il s'agit des pays voisins, évidemment aussi la question des guerres d'agression. Est-ce que ce sont les pays voisins qui sont en train de nous agresser? La question des guerres d'exploitation économique. S'il s'agit d'une complicité interne, au sein de l'armée ou même au sein des civils, est-ce que ce n'est pas une occasion d'enrichissement illicite, d'exploitation des ressources des Congolais? Est-ce que par hasard ce n'est pas une guerre de génocide, une guerre d'extermination des peuples qui habitent dans cette région? La troisième question qui fâche, madame, c'est la question même de la gestion de cette guerre. Évidemment, ici se pose le problème des effectifs. Avoir les milieux comme Beni, comme Oita, vous allez trouver que apparemment d'emblée, il y a un effectif très important des militaires. Est-ce que les mêmes effectifs pour rencontre sur terrain, ce sont les mêmes effectifs qui sont présentés au niveau de l'hiérarchie militaire? Il y a aussi un problème, par exemple, de ce côté-là, la question des unités de commandement. Il semble que et de notre point de vue, tel que nous observons sur le terrain, il y aurait des unités qui ne répondent pas au commandement de Sokola 1 et pourtant qui sont actifs dans la même région et qui semblent ne pas être contrôlables. D'ailleurs, certains d'entre eux les déclarent dans des débits de boissons. Il y a des militaires en famille nombreuse dans la région, vous trouverez un militaire qui se trouve au front, mais avec toute sa famille, y compris la famille élargie. Il y a un doute qui plane autour des équipements militaires. Vous trouverez la même tenue dans les cas des militaires congolais, même tenue du côté des assaillants. C'est comme ceux qui ont opéré aujourd'hui, ceux qui ont opéré aujourd'hui avec des tenues militaires qui ressemblent aux tenues, aux uniformes des phares d'été avec tache-tache. Il y a aussi le problème de certains militaires sur le front, mais qui sont en train d'exploiter le bois, de l'huile, de cacao et ainsi de suite. La dernière question, madame, c'est la question de l'efficacité même des opérations déjà en présence. Nous, population, nous sentons que il y a des opérations qui n'ont pas réussi. Parce que, par exemple, des assaillants qui viennent d'opérer, mais qui partent avec des chèvres, qui partent avec des groupes électrogènes, avec des panneaux, mais pendant une affaire de 3 heures, les militaires congolais n'arrivent pas à les atteindre, à les arrêter, alors qu'ils opèrent avec des enfants, avec des femmes, et on n'arrive pas à les capturer.
Alors, donc, Edgar Matesso, Edgar Matesso, oui, toutes ces questions que vous vous posez, je sais qu'il y a eu plusieurs réunions ou dialogues sociaux au niveau de Beni, justement, pour essayer de répondre à toutes ces questions. Il y avait, il y a eu la présence du gouverneur, de l'ancien gouverneur du Nord Kivu, des autorités militaires. Est-ce que vous n'avez pas évoqué tout ça au cours de tous ces dialogues sociaux organisés à Beni?
Oui, madame, avec toutes les autorités que nous avons pu rencontrer, nous avons essayé de discuter toutes ces questions, et même avec le commandement des opérations Sokola 1, on a discuté toutes ces questions, mais à notre niveau, nous pensons qu'il y a encore un problème non seulement de volonté politique, mais aussi de la sincérité du travail, parce que nous ayant confiance à nos militaires, nous ne sommes pas en mesure de croire comment nos militaires puissent être incapables de maîtriser une situation qui semble être pourtant facile.
Merci.
Dans des triangles bien difficilement localisables, madame.
Merci Edgar Matesso, professeur Nopes Kibiswa, professeur en analyse et résolution des conflits, ainsi qu'en études de paix et justice. Professeur, quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, madame, encore. Je salue son Excellence, le gouverneur du Nord Kivu, et Edgar Matesso, premier vice-président de la Société civile du Nord Kivu. Et également, permettez-moi de m'incliner la mémoire de toutes les victimes de cette guerre et de compatir avec toutes les familles éplorées. La première chose que je dois dire, c'est que ce qui se passe au Nord Kivu et en général dans l'est de notre pays continue à la suite d'une insuffisance dans les analyses, dans l'analyse du conflit et de toutes les situations de guerre et de guerre de basse intensité, tout comme de guerre de haute intensité, il y a une insuffisance d'analyse. Et toutes les fois, on va vite donner des solutions, mais ce ne sont pas des solutions comme telles, mais ce sont pour la plupart des fois des subterfuges juste pour laisser passer le temps et laisser agir les acteurs qui sont en réalité les acteurs bénéficiaires de la situation qui se passe là-bas. Et ces acteurs bénéficiaires sont essentiellement 3 ou 4. D'abord, certaines autorités politique. Ensuite, vous avez certains hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires, Ensuite, les gouvernements voisins, donc les États voisins. Et l'élément capital qu'il faut ajouter, c'est les milieux d'affaires étrangers, donc les multinationales. Voilà les quatre bénéficiaires de la situation et qui ne peuvent pas laisser cette partie du pays calme. Parce que pour ces quatre catégories de personnes, et j'ai bien dit certaines, je n'ai pas dit toutes les autorités, je n'ai pas dit tous les hommes ou toutes les femmes d'affaires, je n'ai pas dit tous les gouvernements ou les pays voisins, je n'ai pas dit non plus que c'est tous les milieux d'affaires étrangers ou toutes les multinationales. J'ai dit certaines. Et l'insuffisance d'analyse et d'approche dans la résolution de ce conflit-là, de notre part, constitue les éléments qui font perdurer cette guerre-là. Et je suis content d'entendre du gouverneur qui reconnaît que nous sommes toujours en guerre. Que nous ne puissions nous tromper en disant nous sommes en situation post-conflit. Certes, on peut dire en situation post-conflit quand on prend l'ensemble du pays, la RDC. Mais l'est du pays est toujours un pays en conflit. Qu'on ne commette pas l'erreur de dire c'est post-conflit. Il est toujours en conflit et pour le moment, l'étape est conflit ou guerre de basse intensité qui se résume parfois par des escarmouches. Et ça, il faut bien analyser les choses pour savoir quelle est l'action qu'il faut mener pour que nous puissions arriver à quel résultat. Les dialogues que l'on tient, je suis content d'entendre l'analyse d'Edgar Matesso qui va exactement dans la direction où il faut approfondir les choses, le questionnement et il faut s'asseoir avec la volonté réelle de résoudre le conflit.
Alors, professeur Kibiswa,
je n'ai pas l'impression qu'il y en a.
Professeur Kibiswa, en parlant des pays voisins, certains pays voisins, on a vu le chef de l'État rencontrer les chefs d'État des pays voisins pour justement essayer de trouver une solution par rapport à cette situation du Nord Kivu. Est-ce que vous pensez qu'il y a sincérité entre les différents chefs d'État?
Pas toujours. Je voudrais prendre parler comme expert indépendant pour dire que il n'y a pas toujours de sincérité entre les chefs d'État quand on se parle. Ils se parlent de la situation au Congo. Il y a beaucoup plus de diplomatie que de réalisme entre les chefs d'État. Chacun restant à un niveau qui ne blesse pas l'autre, mais je reviens sur ce que j'avais déjà dit la fois passée, l'État congolais est un État, à moins que lui-même se renie. L'État congolais est un État et les États ont cette faculté et même l'obligation de surveiller chaque centimètre, chaque millimètre de son espace. Et l'État congolais est en droit et a l'obligation d'utiliser ses prérogatives pour sécuriser son espace.
Merci.
Il n'a pas besoin d'attendre les États voisins pour faire ce qu'il doit faire sur son territoire. Chaque millimètre doit être sécurisé par l'armée, par la police, par les services de renseignement. Tout ce qu'il y a comme service, l'État congolais doit les utiliser sans attendre que les autres États arrivent et ce n'est pas du tout honorable pour notre État que nous restions dans cette situation-là.
Merci, professeur. Années,
nous devons absolument chercher des solutions définitives.
Merci, professeur Kibiswa. Monsieur le gouverneur Karline Nzazu, on va prendre pour vous cette réaction de Jacques qui nous appelle depuis Isangi.
Jacques Kibiswa, maman, nous, depuis Isangi, professeur de la Tope. Il y a des grosses massacres et tueries à l'est du pays. Les compatriotes et citoyens de cette partie de notre pays ont longtemps souffert Et c'est sous les yeux ouverts et en présence de toutes les composantes gouvernementales d'État, mais en sachant que la contre volonté manifeste et implication sérieuse de ces derniers. J'ai comme l'impression que cette situation contient un agenda caché. Pour ainsi dire, on dirait qu'elle est sous contrôle et en complicité avec certains leaders politiques qui gouvernent ce pays. Comment est-il possible que des structures informelles réussissent en tout moment à asseoir leur domination et leur pouvoir si le gouvernement de tout un État comme le nôtre? C'est incroyable. Ainsi, je pense qu'il est temps que le président puisse respecter ses paroles en faisant de cette situation une urgence et une priorité des priorités, car sans la paix et sans la sécurité, il ne peut rien faire pour bien diriger et pour bien gouverner. Au contraire, ça pourrait s'enregistrer comme un risque considérable de crimes contre l'humanité durant son mandat.
Alors, monsieur le gouverneur, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que Edgar Matesso de la société civile et même le professeur Kibiswa. On revient sur cette complicité de certains hommes politiques congolais, les États voisins, l'identité même de l'ennemi qui reste floue. Comment vous répondez à toutes ces questions?
Alors, merci Kelly. En fait, il faut d'abord souligner que la volonté du chef de l'État est bien exprimée. Je voudrais rassurer notre compatriote de Isanki, M. Jacques, que toutes les fois que le président de la République a été à Goma et à Beni, a réaffirmé la volonté, il me l'a réaffirmé hier en m'accordant l'audience. Je voulais
Mais aussi, la situation ne change pas.
Je voulais aussi rassurer la population du Nord Kivu qu'au niveau de la haute hiérarchie militaire, des dispositions sont en train d'être prises pour essayer de contenir non seulement l'avancée vers les grandes villes, de l'Est de la République, spécialement à Beni, à Ouicha, mais aussi mater, étouffer cette nébuleuse à Dief Nalou.
Alors, cette phrase, on l'a entendue plusieurs fois de la bouche des autorités, mais la situation ne change pas.
Effectivement, je l'ai dit tantôt, que nous sommes à guerre. Quand on est à guerre, c'est depuis 1990, spécialement, qu'on est à guerre contre les Dief Nalou. Et je crois que j'ai sali l'analyse qu'a fait le professeur Nopes, pour dire nous devons effectivement analyser les approches. C'est tout à fait normal, quand on est en guerre, qu'on peut effectivement se tromper sur une approche, parce qu'en fait, les EDF changent de méthodologie à tout temps, et changent de milieu. Ils ne sont pas localisés dans un endroit pour dire ils vivent telle part, et l'armée n'a pas attaqué. Aujourd'hui, ils peuvent attaquer du côté de Ouicha. Demain, ils rentrent du côté de la route principale, la RN4, sur Kassindi. La raison pour laquelle nous avons besoin, effectivement, d'avoir l'adhésion de toute la population congolaise.
Ils sont nombreux, ces EDF?
En fait, il n'y a jamais eu de comptabilité de ces éléments EDF, parce qu'en fait, c'est un groupe rebelle. Nous ne pouvons pas nous hasarder sur ces chats pour donner la comptabilité de ces EDF. Mais ce que nous savons, ils sont là depuis plusieurs années. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils kidnappent aussi des Congolais pour les faire otages et les faire des boucliers, ou soit des combattants, les transformer en combattants.
Ils ont même les mêmes tenues que les FRDC.
C'est possible, en fait. Nous partageons une frontière très poreuse avec l'Ouganda, mais aussi d'autres pays. Et la tenue militaire, en fait, c'est un habit. On peut la construire même pour des faits de chercher à assimiler le fait qu'on fait. Ça, c'est parmi les stratégies militaires que les EDF utilisent. Je voudrais rassurer que nous ne devrons pas continuer à personnaliser la vie publique de la nation. Quand nous cherchons les solutions à la guerre des EDF, à travers les personnalités, à travers telle personne, je crois qu'on se tromperait de l'approche. Ce qui est vrai aujourd'hui, nous devons nous dire comment nous pouvons faire pour que notre système de défense soit à même de protéger notre territoire national.
Comme ça fait 10 ans qu'on se discute sur cette question.
Il y a des pays qui ont fait beaucoup de temps pour arriver à la paix, à la tranquillité. Je crois que c'est que nous devons avoir à tête comme République, que notre pays est menacé à partir du territoire de Beni ou bien de l'Est de la République par les groupes armés, les FDLR et les EDF, aussi les groupes nationaux locaux. Et qu'il est de notre responsabilité comme État de trouver des solutions pour que notre territoire national soit sécurisé totalement. On peut aller dans les théorie de la guerre, les approches la critique, pour autant que nous aurons les FDLR, les ADF, les groupes armés sur notre territoire, notre population continuera à souffrir de ces affres de ces groupes armés.
Alors de l'autre côté, monsieur le gouverneur, c'est le parlement d'enfants qui relève qu'une centaine d'enfants ont été tués ou enlevés ces cinq dernières années au cours des différentes attaques de l'EDF dans le territoire de Béni. Cette structure dénonce ce qu'elle qualifie de crimes graves contre l'humanité.
Je peux partager la même opinion, pour autant que je suis congolais, pour autant qu'il y a plusieurs catégories de personnes tuées. Il n'y a pas que les enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mutilés par les ADF, qui sont mutilés par les FDLR, qui sont mutilés par certains groupes armés. Et il y a trois jours, on a tué un préfet d'école par un groupe NDC. NDC de Guido qui a lâchement tué un préfet d'études. Donc il n'y a pas que les ADF qui nous font mal, il y a aussi les groupes locaux, les armées congolais malheureusement qui nous font du mal et qui créent de l'insécurité, qui tuent notre propre peuple malheureusement. Et je crois qu'il est de notre responsabilité comme pouvoir public d'asseoir notre système de défense qui va défendre la République démocratique du Congo et qui ne va plus permettre qu'un ADF, un groupe local, puisse s'aventurer pour continuer à tuer la population.
Merci, monsieur le gouverneur Edgar Mathès. On va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient encore une fois d'Isangi, dans la province de la Tshopo.
Joseph Bongulé à la Kalaka, depuis Isangi, dans la province de la Tshopo. La situation qui était à l'est de notre pays pendant ces deux dernières décennies devrait tirer l'attention très particulière de notre gouvernement, d'autant plus qu'elle perdit et a des conséquences très accrues et très atroces sur la population congolaise. Une série de questions nous vient en tête. Pourquoi seulement l'est et non d'autres coins du pays? Pourquoi cette situation perdue telle? Quels sont les vrais acteurs de cette situation? En dépit de toutes ces questions, nous constatons que cette situation perdue, parce qu'elle devient le business de beaucoup d'autorités politico-militaires sur le plan national, régional qu'international. Vu que l'est de notre pays est l'une des régions très riches en minerais, nous conseillons particulièrement au président de la République de faire de la sécurité, surtout à la partie est de notre pays, l'un des piliers de son gouvernement, en renouvelant l'équipe de commandement des FARDC dans cette partie.
Réaction Edgar Mathesso.
Oui, en fait, notre auditeur de Sangui partage la même préoccupation que nous. Parce que, justement, comme le monsieur le gouverneur a parlé de la volonté du chef de l'État qui est là, mais nous qui sommes sur le terrain, nous disons que la volonté politique, la bonne volonté ne se proclame pas dans des officines. La bonne volonté se manifeste sur le terrain. Parce que nous avons évoqué l'hypothèse d'une guerre économique. Une guerre qui serait économique à l'avantage, à la faveur de certains officiers, bien sûr, de certains opérateurs économiques véreux qui travaillent avec des réseaux massifs, mais aussi surtout avec les multinationales qui se créent un marché des ressources naturelles, des matières premières. Et justement, c'est une question qui préoccupe. Pour autant que, par exemple, les assaillants de la semaine passée qui ont attaqué au nord de Oïta et qui ont réussi à traverser entre deux camps militaires. Or, entre ces deux camps militaires, il y a des divagations de chèvres qui appartiendraient aux militaires. Mais ils ont abandonné toutes ces chèvres pour aller emporter les chèvres des paisibles citoyens. Je fais ici allusion encore une fois à une fuite des ressources naturelles, des planches qui sont en train de venir de cette région qui est en train d'être abandonnée par la population. Toutes ces questions nous laissent perplexes avec une situation nébuleuse. On a évoqué la situation, par exemple, des tenues militaires. Le gouverneur dit que les tenues, on peut s'en procurer partout, mais c'est quel hasard, c'est quelle coïncidence lorsque les assaillants doivent choisir la même tenue que les militaires. Quand bien même les militaires ont changé d'uniforme, et il y a un jour, il y a deux jours, et on va trouver le lendemain les assaillants avec la même uniforme. Justement, ce sont des telles préoccupations qui nous poussent à penser que certainement il y a des gens qui sont en train de profiter sur les camps des Congolais et les parlements d'enfants parlaient par exemple de...
Allez-y.
Je disais que le parlement d'enfants évoquait les cas des enfants qui sont déjà massacrés. Mais c'est horrible, madame. Lorsqu'il y a, par exemple, des femmes enceintes éventrées, lorsqu'il y a des enfants qui sont tués à la hache ou à la machette, lorsqu'il y a des enfants qui sont cognés contre les trous de bananiers, il n'y a aucune mobilisation de la communauté internationale pour dire non, on doit arrêter cette situation. Donc, c'est une situation qui fâche, qui étonne, et finalement, le silence, même s'il y a des volontés, qui reste volonté passive. C'est ce qui complique la situation.
Merci Edgar Matesso. Professeur Kibis, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bénin.
Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. À y regarder de près ou de loin la situation de Bénin, pour la suffisance que Bénin est dans les situations de non-État. T'as plus pas quoi faire toutes les opérations militaires que des tiers ne refaire de ceux notamment. Sokola 1, Sokola 2, opération Likofi, et je pense, par ailleurs, je pense que la MONUSCO avait renouvelé son mandat pour accompagner les autorités et les vaillants peuples congolais dans leurs efforts de relever le défi sur le plan sécuritaire et politique, notamment à travers la poursuite et le renforcement des collaborations avec les FADC dans la traque des groupes armés qui sèment la désolation dans l'est de la RDC. Est-ce qu'elle joue son rôle réellement de maintenir la paix dans tous les coins et recoins du pays, y compris Bénin? Ainsi, il est important que le chef de l'État remplace d'abord tous les officiers du FARDC de Bénin, voire tous les chefs des services de renseignement résidant à Bénin.
Professeur, est-ce que ça serait une solution pour éradiquer, pour essayer de mettre fin à cette insécurité à Bénin?
Merci, madame. Je voudrais d'abord revenir sur un aspect, l'identité des assaillants. Parce que dans l'analyse, si l'on ne fait pas une bonne identification des acteurs d'un conflit, l'on ne saura pas qui sont les interlocuteurs. Si on doit parler, l'on ne saura pas par quel mécanisme on doit éradiquer telle difficulté. Les mots ADF, je considère qu'il est utilisé uniquement pour essayer de tromper la vigilance. Les assaillants ne portent pas vraiment le nom de ADF. ADF, c'est quelque chose qu'on utilise pour justement tromper la vigilance.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ils sont dans la population, ils sont dans l'armée, ils sont dans le groupe que je venais d'évoquer.
Donc pour vous, ces gens sont connus.
Le mot ADF est utilisé. Pardon?
Donc, pour vous, ces assaillants sont connus?
Ils sont connus de ceux-là qui les utilisent. Et je vous ai dit qu'il y a quatre groupes qui les utilisent. Ils sont connus, c'est la population et nous, les autres consommateurs extérieurs de l'information, à qui l'on dit ADF. Pourquoi, depuis tous ces temps, il y a eu des opérations, même les plus simples. Par exemple, il y a eu dans une cité, je crois à Butembo, des personnes qui sont apparues dans la cité. Certains étaient nus, d'autres portaient des enfants et consorts et marchaient calmement. Et ces personnes-là ont été probablement attrapées. Qu'est-ce qu'on en a fait?
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on va passer aux solutions. Cet auditeur a proposé à ce qu'on puisse remplacer tous les officiers des FARDC qui sont à Bénin et même tous les chefs des services de renseignement. Est-ce que ça serait une solution pour que la paix revienne dans cette partie du pays?
Oui. Je dirais d'abord, il y a eu déjà
des réponses à cette question-là. Utiliser l'armée, les éléments originaires de cette province-là ou de ces provinces ou d'une province n'importe laquelle comme armée là dans la province est une erreur monumentale. Il ne faut pas que les officiers, surtout, et les hommes en armes restent dans leur province d'origine. C'est une erreur. Ensuite, la manière d'opérer de notre armée, elle opère toujours à défensive. Vous apprenez que les assaillants ont attaqué, c'est à ce moment-là qu'il y a réaction de l'armée. Non. L'armée doit occuper les territoires nationaux et pourchasser et aller attaquer l'ennemi là où il se trouve. Il ne faut pas attendre que l'armée soit d'abord attaquée ou la population d'abord attaquée.
Merci,
cette
professeur.
Méthodologie-là est aussi un message que l'on peut décoder.
Merci, professeur Nobest, qui puisse soit. On va considérer cela comme votre conclusion. Monsieur le gouverneur, vous héritez d'une province meurtrie, notamment par les groupes armés, des divisions à connotation interethnique, des défis que vous devez, que vous avez promis de relever. Par quels moyens? En une minute.
Merci bien. Nous allons nous employer pour encourager le chef de l'État à accélérer sa diplomatie offensive pour que le pays voisin puisse contribuer à l'avènement de la paix à la République démocratique du Congo, parce qu'en fait, les ADF et les FDLR sont des groupes armés étrangers, mais aussi mobiliser les ressources publiques et financières pour que, en fait, on donne plus de moyens à l'armée pour que la paix revienne. On ne peut pas faire la guerre sans moyens. Et nous pensons qu'il y a des conditions nécessaires qu'il faut donner à l'armée pour que les éléments de l'armée soient à même de répondre à temps utile à toutes les attaques qui pourront subvenir contre la nation congolaise.
Merci, monsieur le gouverneur. Edgar Matisse, un mot en guise de conclusion.
En fait, j'avais trois propositions comme solution. La première, c'est qu'il faut modifier les opérations qui ont déjà été initiées, changer de stratégie. La deuxième solution, c'est de redéfinir la nature des relations et coopérations avec les pays voisins.
Troisièmement, merci Edgar Matesso, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu Donamadima sous la supervision de Pelleki Pelamondo. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son au micro, Kéline Couté. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.